Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Mansour Khalife. Mansour, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors, vous êtes le président fondateur de la société MNK Partners. Nous parlerons tout à l'heure de son positionnement spécifique au sein des gestionnaires d'actifs immobiliers. Mais on peut déjà rappeler que vous intervenez sur l'ensemble des marchés européens et plus particulièrement sur l'Europe centrale et orientale. Vous disposez d'ailleurs d'un bureau à Varsovie depuis 2020. Donc c'est ma première question qu'on doit vous poser régulièrement ces dernières semaines. Quel est l'impact du conflit ukrainien sur les marchés immobiliers de l'Est de l'Europe ?
Alors effectivement, on nous la pose depuis quelques semaines maintenant et la réponse est toujours la même. Et on voit à travers ces semaines qui défilent que globalement, l'impact à très court terme, dans tous les cas, n'est pas négatif. Il y a une demande qui est très renforcée par le flux migratoire qu'il y a eu sur les pays du centre de l'Europe, avec une demande qui se fait naturellement sur les actifs immobiliers, que ce soit le bureau aujourd'hui. Il y a très très peu de cellules vacantes sur le bureau, par exemple à Varsovie, vous citiez tout à l'heure. Pareil pour le résidentiel, tous les appartements sont pris d'assaut. La logistique et les retail parks, bien entendu, sont aussi pris d'assaut. Donc on voit bien que l'impact à court terme, dans tous les cas, n'est pas négatif. Même au contraire, une demande forte avec une offre qui reste scalée, ce qui fait que la pression est maintenue et aujourd'hui, les deals continuent.
Il n'y a pas de problème, ne serait-ce que sur les financements bancaires, par exemple.
Alors effectivement, c'était le point que je voulais évoquer. On a craint au tout début une histoire de devise, parce que bon, on rappelle que ces pays-là ne sont pas tous dans la zone euro, comme la Pologne qui est en zloty, mais finalement la devise reste stable, et les financements bancaires, les acteurs bancaires continuent à financer, il y a eu aucun, à notre connaissance, en tous les cas, aucun retrait d'un dossier qui était en cours de financement. Le seul point, effectivement, qui est un peu pénible, c'est que les délais sont plus longs parce que les banquiers, tout comme partout en Europe, se sont vus mobilisés pour repasser tous les KYC avec toutes les sanctions qu'il y a contre les Russes. Donc, mis à part ce délai-là, on voit pas dans tous les cas aujourd'hui de revirement, de virement ou de virage assez important sur le marché immobilier en Europe centrale, que ce soit côté bancaire qui continue à financer ou que ce soit côté demande, finalement, qui est toujours là. On rappelle aussi que les acteurs de ce marché-là, les investisseurs de ce marché sont principalement locaux et régionaux, ce qui renforce aussi la stabilité de ce marché.
Vous avez reconstitué, je crois, un indice EPRA local. Comment ça fonctionne et qu'est-ce qui donne comme indication aujourd'hui ?
Alors effectivement, on a voulu voir, parce que bon, c'est vrai que dans l'immobilier non coté, les impacts sont en général décalés dans le temps. Par contre, sur les marchés financiers, ils sont un peu plus brusques. Donc nos équipes au Luxembourg ont simulé un indice, c'est un indice interne, qui est pondéré des capitalisations boursières des 18 plus grandes sociétés immobilières cotées en Pologne, qu'on a comparé à l'indice EPRA hors UK, bien entendu, et on voit que globalement, la demande est toujours là. Donc l'indice lui-même n'a pas dévissé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retrait massif sur les marchés financiers qui, eux, sont liquides, les marchés financiers immobiliers polonais, et bien au contraire, donc ça se maintient. Donc ça renforce un peu cette idée que les investisseurs de la région sont en majorité, pas que, mais en majorité des acteurs locaux et régionaux. Et donc, ils ont confiance dans ces marchés-là, qui restent finalement, qu'on se le dise sans l'oublier, c'est des marchés de l'Union européenne. On n'est pas hors de l'Union européenne. On a toujours tendance à penser que l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, c'est un autre périmètre. Non, c'est un périmètre européen, un périmètre qui nous engage finalement et qui réagit de la même façon que les autres pays européens.
Donc, il y a toujours des opportunités dans ces pays, selon vous ?
Il y a toujours des opportunités, oui. Dans tous les cas, j'ai envie de dire, il est contre nature chez MNK de réfléchir en discrimination par la géographie. C'est-à-dire qu'on va pas dire... Chaque marché a ses propres risques et ses propres opportunités, mais on va pas aller désavouer un marché juste parce qu'il a une frontière commune avec l'Ukraine. De surcroît que ça reste des marchés de l'Union européenne. Aujourd'hui, les opportunités dans l'immobilier sont là. On sait qu'on est en période purement inflationniste. En période inflationniste, l'immobilier est la seule classe d'actifs qui réagit bien. Pourquoi ? Parce qu'on a des indexations de loyers, parce que globalement, on peut en profiter. Je vous donne un exemple. On a acheté un actif à Varsovie sur notre fonds Polska by MNK. On a acheté un actif à Varsovie le 30 décembre. Au 1er janvier, on a acté 5% d'indexation sur le loyer. Donc ça n'existe que dans l'immobilier et ça reste reste dans tous les cas aujourd'hui une valeur refuge en comparativement à d'autres classes d'actifs qui sont un peu plus volatiles.
D'accord, bah vous venez de parler justement d'un de vos fonds Polska by MNK. Donc je rappelle votre positionnement, vous gérez plusieurs fonds dédiés aux professionnels ou investisseurs institutionnels, notamment Polska by MNK, mais aussi un fonds de rendement pan-européen professionnel, là encore, MNK One, qui a réalisé l'an dernier une performance globale de 9%, je crois, dont 6% en termes de rendement, parce que c'est un fonds de rendement. Pouvez-vous nous rappeler un peu la stratégie de ce fonds et les dernières opérations que vous avez réalisées?
Oui, vous faites bien de le repréciser. Les fonds gérés par MNK sont dédiés à une clientèle professionnelle au sens de la réglementation et de la MIF. Et que ce soit MNK One ou Polska, on a toujours cette approche par le rendement, c'est-à-dire par le dividende qui est distribué à nos investisseurs, qui sur MNK One était de l'ordre de 6% sur l'année 2021, qui va continuer sur 2022 en toute logique, avec une revalorisation de la part. Ça reste des fonds qu'on assimile dans tous les cas du private equity immobilier, c'est-à-dire c'est des fonds datés qui se déploient sur une certaine maturité, MNK One sur 8 ans, Polska sur 6 ans, et qui ont vocation, au bout du déploiement et de la stratégie, à être liquidés pour pouvoir offrir. L'idée derrière, c'est l'idée de nos produits, c'est d'offrir des briques d'allocation à nos investisseurs. Hein. Conceptualiser ce portefeuille immobilier, il faut savoir qu'est-ce qu'on y met. Donc on y met du rendement, on y met du corps, tout comme MNK One. On va favoriser des localisation, des bonnes localisations avec des bons locataires et des bons longs termes. Et on y met un tout petit peu de Polska, by MNK. Pourquoi? Parce que la Pologne aujourd'hui offre un momentum assez intéressant, quand bien même il y a la crise ukrainienne, parce que c'est, selon nos études, dans tous les cas, c'est 30 ans de croissance économique avec une très forte démographie, un chômage qui est très très faible, donc de très bons fondamentaux aujourd'hui démographiques et économiques qui permettent, dans tous les cas, d'envisager un investissement sur un moyen terme, un investissement gagnant. Pourquoi juste ce dernier point qui est quand même fondamental, c'est que le marché de la Pologne passe d'un statut primaire à un statut secondaire. Et c'est ce momentum qu'on veut aller chercher avec ce fonds-là.
Mais MNK One, lui, il est pan-européen, donc vous n'êtes pas seulement investi en Pologne, vous êtes aussi investi, je crois, en Espagne et sur d'autres pays européens. La stratégie globale du fonds, aujourd'hui, c'est quel type d'actifs et quelles sont vos dernières acquisitions?
Effectivement, donc MNK One est un pan-européen. Il investit en Irlande, il investit au Portugal. Alors, pas encore en Espagne, mais on va bientôt y arriver. Pologne, Hongrie, on regarde l'Italie, on regarde d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Très rapidement, hein, on a, 2021, l'acquisition phare de MNK One, c'est cet hôtel B&B dans la zone aéroportuaire de Lisbonne. On rappelle qu'on est entré en discussion en juillet 2020, au moment juste en sortie de confinement, au moment où personne ne voulait investir dans l'hôtellerie. On a mis 6 à 9 mois pour le sortir, on l'a sorti dans de très bonnes conditions, et aujourd'hui on est très content. Donc c'est un bail de 20 ans ferme avec B&B. On a une très belle localisation sur la zone aéroportuaire de Lisbonne. Et on a surtout un très bon locataire qui paye ses loyers et qui nous permet dans tous les cas de renforcer la rentabilité et le rendement de MNK One.
Donc ça, c'est un exemple justement d'acquisition opportuniste et porteuse de valeur à long terme.
Oui, alors l'opportuniste peut faire peur, hein. On a toujours l'impression qu'on va chercher des choses qui ne sont pas mainstream, mais aujourd'hui c'est la force de la conviction, hein. L'opportunité, elle est dans la force de la conviction, elle est dans la force de la lecture des phénomènes démographiques, des phénomènes culturels. Penser mai ou en juillet 2020 qu'il n'y aurait plus d'hôtels, c'était juste à notre sens, dans tous les cas, dérisoire. Aujourd'hui, on est convaincu qu'il faut aller sur ces classes d'actifs dites alternatives, quand bien même il faut aussi suivre l'évolution de ces classes d'actifs. C'est ce qu'on fait déjà dans le bureau, c'est ce qu'on fait aussi dans l'hôtellerie, et c'est ce qu'on fait par exemple dans d'autres sujets. Je pense qu'on en reparlera.
Alors justement, dans votre objectif, c'est d'étendre en fait le périmètre d'intervention du groupe, notamment en rajoutant d'autres classes d'actifs à vos expertises initiales. Où en êtes-vous de ces projets aujourd'hui? Je crois qu'il y a un fonds de dette immobilière qui est prévu.
Oui, effectivement. Alors, le groupe MNK Partners, qui a beaucoup évolué hein, sur ces 5 dernières années, aujourd'hui, donc, on a du rendement et on renforce le rendement par cette dette immobilière. On va très, très probablement, on va lancer très, très prochainement un fonds qui est toujours adressé à une clientèle professionnelle et qui sera investi dans la dette immobilière. On réfléchit, par ailleurs, hein, sur d'autres thématiques. On réfléchit au résidentiel, qui nous paraît une classe d'actifs assez intéressante, très résiliente aujourd'hui et un peu contre-cycle parce qu'il y a une très forte demande démographique, hein, une très forte demande sur le résidentiel. On trouve que c'est assez intéressant d'y aller. Et bien entendu, on fera tout ça dans une logique, bien entendu, on pourra en parler, mais dans une logique très ESG et très ISR. Et il est de notre volonté, dans tous les cas, dans les prochains mois, de labelliser nos fonds.
D'accord. Ben ça, le sujet ESG, on n'aura pas forcément le temps de le traiter. Je voulais, en revanche, revenir sur le côté retail, parce que aujourd'hui, donc, le marché des gestionnaires d'actifs, il est, bah, pour le coup, très actif et très concurrentiel. Vous n'êtes pas tenté, justement, d'adresser ce marché demain?
Alors, on est tous tentés de servir nos investisseurs et on ne fait pas de distinction entre un petit et un grand. Hein. Un investisseur reste un investisseur. Il faut savoir que le patrimoine d'un être humain est le fruit d'une histoire, hein, d'une histoire de famille. Comment faire du retail avec des fonds professionnels? La réglementation est assez complexe. Néanmoins, on a avancé avec des partenaires, des assureurs vie luxembourgeois, pour retailiser la démarche, si vous me plaît.
Je veux dire, oui, c'est barbarisme.
Retailiser l'approche avec des FIC, hein, des fonds internes collectifs. On en lance un aujourd'hui avec un très gros assureur de la place luxembourgeoise et qui va permettre, à partir de 5000 euros, de pouvoir prendre une exposition sur de l'immobilier technologique, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas aller chercher avec d'autres fonds. C'est des tours 5G, c'est des data centers, c'est aussi de l'e-commerce qu'on va pouvoir prendre parce que ce fonds, ce FIC, investit dans des foncières cotées, par exemple American Tower, Cellnext, pour en citer que quelques-uns, qui sont partout dans le monde. Donc on trouve que cette démarche de retailisation d'un private equity immobilier par l'assurance vie luxembourgeoise est, dans tous les cas, assez intéressante aujourd'hui.
Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir en termes d'allocation aujourd'hui, l'immobilier technologique, ça vous paraît le sujet d'actualité?
Bah, c'est une façon, finalement, de faire du vrai private equity avec d'autres risques, qui sont les risques immobiliers, c'est-à-dire que bah, quand vous faites du private equity, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain, mais avec l'immobilier, finalement, vous avez une valeur qui reste là, et surtout, vous avez du rendement.
Mansour Khalifé, merci beaucoup.
Merci Frédéric.
Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.